Israël, en tant que nation, est appelé les Bnei Israël. Mais il y a eu une première période de l'histoire d'Israël, qui est l'histoire des Avot, des pères d'Israël. La Torah s'adresse aux Bnei Israël, c'est-à-dire à la descendance des Avot. Et donc, cette descendance des Avot, qui est Israël, est à l'abri du mérite des patriarches, qui est le Zechut Avot. Exact, à la sortie d'Égypte. Hein. C'est très exact. Oui, il y a deux périodes, la période des pères et la période des fils. Et alors, cette notion de Zechut Avot a d'abord comme sens, c'est cette protection du mérite des patriarches qui est le garant de l'alliance qui est entre Dieu et Israël comme nation. C'est bien clair, c'est le premier sens direct. Et alors, ça joue aussi à travers tout, chacune. À travers les différentes familles. Et nous sommes toujours un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, ça se rattache à un ancêtre qui a été fondateur de la lignée. Alors il y a une différence dans l'hérédité de chacun qui renvoie à ce qu'ont été les fondateurs des lignées. Le fait que dans l'être de chacun, il y ait à la naissance un héritage différent, ça vient des ancêtres. Et si, par exemple, vous voyez que de la même génération, deux membres du même peuple d'Israël qui auraient les mêmes circonstances, qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes privilèges, ils sont quand même différents dans leur comportement, d'où ça vient? Ça vient que leur être est différent à la racine. Habituez-vous bien à cela, l'hérédité, ça existe. Et on est jugé toutes circonstances connues. De dire que chacun est jugé, et c'est pourquoi le jugement réel dépasse les hommes, on est jugé toutes circonstances connues. Qui es-tu? Le fils de qui? Le fils de qui? Le fils de qui? Et alors, ça explique pourquoi les jugements sont différents suivant la différence des individus. Quelqu'un qui est tzadik ben tzadik n'est pas jugé de la même manière que quelqu'un qui est tzadik ben racha ou quelqu'un qui est racha ben tzadik. Il faut connaître toutes les circonstances, il n'y a que Dieu qui les connaît. Et je vous donne un exemple, un peu direct. Voilà, vous êtes un groupe de gens qui arrivaient de la diaspora et vous avez le privilège d'être en Israël après 2000 ans. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Sûrement vous avez réfléchi. Pourquoi dans votre famille, c'est vous et pas la cousine et pas le beau-frère et pas le cousin? Tout ça vient. C'est à peu près où vous avez la même famille. Un des fils reste à trifouiller les oies cachères autant que possible. Hein. Certains même disent les oies glades cachères. Hein. Et puis un autre vient à Jérusalem. Okay. D'où vient la différence? Hein. Alors c'est pratiquement le même être, le même fils de la même famille. C'est-à-dire que ça travaille différemment à travers les gènes qu'ils ont reçus de leurs ancêtres. Il y a un récart de la Toréchet, c'est Torashti, je pense que c'est en français, hérédité, c'est pas exact, mais il y a une manière d'être qui est encore beaucoup plus importante que la manière de faire. Et alors il y a un mystère du sort de chacun. Effectivement, c'est un mystère. C'est un mystère à l'échelle humaine. Ça ne veut pas dire que Dieu ne comprend pas la différence, il la comprend, puisqu'il sait d'où viennent les lignées. Chacun est encore une fois, comprenez pourquoi dans la tradition on est nommé du nom de son père, lequel est nommé du nom de son propre père. Chacun est lui-même un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, celui-là, génialement celui-là et pas quelqu'un d'autre. Vous avez bien compris cette différence. Alors donc, lorsqu'on bute devant le mystère, pourquoi pour lui c'est comme ça, pourquoi pour lui c'est autrement, alors on a cette réponse, c'est le Zechut Avot. Voilà, je referme la parenthèse sur le Zechut Avot. Mais ce que je passe, c'est une toute autre notion. C'est le fait que la descendance a le pouvoir de modifier le jugement sur ses propres ancêtres. C'est-à-dire, toutes les lignées ont les yeux fixés sur le dernier de la descendance. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qui sera au moment où il faut décider? Est-ce qu'on reste à trifouiller les oies ou est-ce qu'on vient à Jérusalem? Tous les ancêtres attendent ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire dans cet exemple? Et d'où l'importance, je vais vous donner ça dans le folklore juif. Chez les Ashkenazim, les gosses, on les appelle les Kaddish. Je ne sais pas si vous avez connu. Vous avez connu ça, c'est Ashkenaz. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va dire Kaddish pour son père. Et s'il ne dit pas Kaddish pour son père n'a pas de Kaddish. Oui, ça dépend du fils. Hein ? Le fils tient entre ses mains le sort du père. Et comme je sais que vous n'êtes pas du tout habitué à une idée pareille, j'explique un peu plus longuement. Mais réfléchissez par vous-même. Je vous donne un exemple. Vous savez, beaucoup de rabbins reçoivent énormément de gens qui viennent leur parler de mariage mixte. Alors, il y a des jeunes gens qui viennent, et puis voilà, par exemple, un jeune homme juif qui vient nous voir, qui nous dit, voilà, ben, je connais une jeune fille, elle n'est pas juive, mais je l'aime, je vais me marier avec elle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, en général, j'ai l'habitude, j'ai reçu ça de mes maîtres, d'ailleurs, j'ai l'habitude de poser deux questions. Vous allez bien suivre ça. Si c'est dans le cas où c'est le jeune homme qui est juif, c'est en général plus général que l'inverse. Okay. Alors, je leur demande à chacun, le jeune homme et la jeune fille, regardez bien vos parents. Tu vois ton père, toi, et tu vois ta mère, toi. Vous les voyez mariés ensemble. Alors, ils se mettent à réfléchir. 9 fois sur 10, ça s'arrête là. Okay. Dans 40 ans, toi, tu ressembles à ton père. Et dans 40 ans, toi, tu vas ressembler à ta mère. Est-ce que tu les vois mariés ensemble ? Quand on a 20 ans, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Mais ensuite, le temps va passer, et puis on va se trouver à l'âge de 40, 50 ans, un mariage impossible, et on est en enfer. Quand, dans un mariage impossible, c'est l'enfer. Et c'est pourquoi il faut réfléchir aux ascendants. Maintenant, la deuxième question, c'est, bon, tu vas te marier avec une non-juive. Alors tu vas décider que ton père aura un petit enfant non-juif. Tu vas décider pour lui. Et il se met à réfléchir, et 9 fois sur 10, ça s'arrête là. Vous avez compris le problème. C'est-à-dire, il faut réfléchir aux attendus des comportements par rapport à l'histoire des lignées. Effectivement, très souvent, il nous arrive le 1% en question, le 1 fois sur 10 où ça n'a pas marché, ils reviennent dire ah, si on avait su. Parce que maintenant, ils sont dans des situations insolubles. On ne marie pas les petits d'hommes n'importe comment. On a perdu la science des mariages. Comment appareiller les couples ? C'était connu par les vieilles grand-mères avant. Mais cette science s'est perdue. Et alors, même pour faire des petits pois, pour marier des petits pois, il y a des règles. Alors, pour marier des petits d'hommes, à plus forte raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conversions possibles. Mais c'est tout à fait autre chose. À partir du moment où quelqu'un est converti, c'est un juif ou une juive. Il ne s'agit plus de mariage mixte. Il s'agit de ce que je précise bien le sens direct du mariage mixte. Un juif se marie avec une non-juive ou une juive se marie avec un non-juif. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais c'est tellement aléatoire. Bon, quels sont les critères de cet aléatoire ? Eh bien, c'est la relation aux ancêtres, c'est la relation aux descendants. Fabriquer un gosse de mariage mixte, c'est condamner quelqu'un à être déchiré entre deux mondes inconciliables. Et encore une fois, chaque cas s'étudie, chaque cas est un cas particulier et s'étudie pour lui-même. C'est les tribunaux rabbiniques s'occupent de ça. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas s'isoler de sa lignée. Un tel est toujours un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Lui n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez compris le problème. Donc. Et alors, c'est ce qu'on va découvrir. L'exemple le plus privilégié qu'on a de cet enseignement, c'est le salut de Noé. On va apprendre que Noé est sauvé parce que dans sa descendance va naître Abraham. Mais ça, personne ne peut le savoir au temps de Noé, même pas Noé lui-même. Donc, au temps de Noé, la grâce est gratuite totalement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est arbitraire. Il y a une raison. Cette raison, c'est pas que Noé était tzaddik, mais la Torah n'a pas voulu que nous croyions que c'est un rachat qui a été sauvé. C'était un tzaddik, mais il n'était pas tzaddik à un niveau tel qu'il le méritait de sauver. Alors je vais commencer par cette première notion-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux expressions dans le Talmud. Il y a tzaddik et il y a tzaddik tov. Quelle différence entre tzaddik et tzaddik tov ? Est-ce que ça voudrait dire, et c'est ça qu'on dévoile, qu'il y a un tzaddik qui n'est pas tov ? Qui pourrait répondre ? Non, ça tu viens d'y penser, c'est très joli, mais c'est pas le sens en hébreu. rester dans la question que je pose. Là, tu passes à côté. Je veux dire un autre vocabulaire. Il y a rachar et rachar rare. Il y a tzadik et tzadik tov. Quelle est la différence? Ne croyez pas que ce sont des choses simples auxquelles on peut répondre juste par une phrase. Il y a, en tout cas, moi j'ai étudié 7 significations différentes de ces niveaux. Mais je ne vais en parler que d'un, hein, au niveau le plus élémentaire. La différence entre tzadik et tzadik tov, la différence entre rachar et rachar rare. Par exemple, quand vous dites Irdal Elohim Chai, notez les rachars rares que l'Ishrato. Pourquoi il y a un rachar qui n'est pas rare et un rachar qui est rare? Quelle différence est entre rachar et rare en hébreu, enfin en français? Rachar c'est quoi? Et rare c'est quoi?
Un pi
méchant.
Quoi?
Rachar c'est pas un pi. Rachar à la rigueur c'est méchant. C'est pas facile à traduire, hein? Un seul à la fois. Vous vous rendez pas compte, vous perdez du temps à vous mélanger les vocabulaires comme ça. Quand quelqu'un parle, laissez-le parler tout seul. Alors, si rachar c'est méchant, rare c'est quoi?
Dans les sens, c'est-à-dire qu'il porte en lui vraiment le mal.
Traduis-moi. C'est pas ça méchant qui porte le mal? Quelle différence il y a entre méchant et qui porte le mal, Ken? Déjà rachat, c'est volontairement. Choté, c'est quelqu'un qui faute pas volontairement. Oui, étonnant. C'est normal que vous découvriez qu'il faut penser hébreu. Hein, et que c'est... Ah, écoutez, n'intervenez pas quand quelqu'un parle, qui que ce soit. On ne peut pas travailler comme ça. Et alors vous découvrez qu'il faut penser en hébreu, c'est normal que vous n'arrivez pas à faire correspondre les mots en hébreu et en français, mais retenez en tout cas le sens hébreu des mots hébreux. Alors je reprends, Ken.
Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais expliquer. Ça dit que c'est peut-être quelqu'un qui a dû travailler beaucoup sur ses méthodes pour devenir tzadik, et qui n'avait pas a priori des facultés pour le devenir. Et ça dit ça, c'est quelqu'un qui avait déjà en lui l'essence du bien et qui n'avait pas trop de mal à rester...
C'est joli, mais ce n'est pas ça. Parce que dans ce sens-là, ça s'appelle chassid et pas tzadik tov. Non, tu as bien vu une différence, mais ce n'est pas celle-là.
Tzadik, ce n'est pas celui qui fait ce qu'on lui demandait. Ça veut dire que par un jour, et tzadik tov, c'est celui qui, en plus, fait des choses en plus, c'est-à-dire qui est porté en plus de
raison. Eh bien, tu répètes ce qu'elle a dit autrement, et ça, c'est chassid. Ken. Où c'est répété deux fois? Ah, je ne l'ai pas répété.
Non,
comprenez le sens des mots. Tzadik, ça veut dire juste. Et en plus, j'ajoute tov, un juste bon. Il y a un juste pas bon. Hein? Écoute, je vais te poser une question simple. Quand je dis qu'une femme est enceinte, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est un petit peu enceinte? Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte? Un tzadik, c'est un tzadik, vous n'êtes pas un tzadik. Ne passez pas à côté. Attends, Émile, qu'est-ce que tu veux? Très bien. C'est une gemara simple. Comme vous ne la connaissez pas, il faut la découvrir. On appelle quelqu'un de tzadik, le premier sens, hein. Il y a d'autres niveaux de sens. Quelqu'un de tzadik, comme tu as dit toi, c'est qui est tzadik par rapport à Dieu. Mais il peut être tzadik par rapport à Dieu et pas du tout tzadik par rapport aux hommes. Alors on l'appelle tzadik chez Eno Tov. S'il est aussi bon par rapport aux hommes, on l'appelle tzadik Tov. Ça y est, c'est clair? C'est ce que tu voulais dire. Mais tu ne l'as pas dit comme ça. Tu as répété ce qu'elle a dit avec un autre vocabulaire. Tu ne m'as pas du tout indiqué la différence entre... C'est maintenant que tu l'ajoutes. Et c'est enregistré. Alors, on revient au sujet. Non, il peut vous arriver souvent, vous pensez vouloir dire une chose, mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Encore une fois, tout ça, ça doit vous servir au fait d'arriver le plus vite possible à étudier et à penser en hébreu. Vous voyez à quel point les nuances en français sont différentes. Alors, effectivement, on apprend que Noir, est un tzaddik, je dirais même parfait par rapport à ce que Dieu lui demande, et c'est ce que le texte dit, mais le texte ne fait aucune allusion au fait qu'il soit aussi tzaddik par rapport aux hommes, aux autres hommes, bien que il fait tout son possible, mais il ne réussit pas. C'est ça la grande différence qu'on va voir avec Abraham. Il est tzaddik. Mais regardez comment on le dit le verset, la fin du verset 9. Et à Elohim et à l'ère noir. Noir se conduisait avec Dieu. Et le Midrash ajoute, et pour se conduire avec Dieu, il quittait les hommes. Vous avez beaucoup de tzadikim qui, pour pouvoir rester tzadikim, se séparent des hommes. C'est la vocation du moine, par exemple. Parce que le fait d'être avec les autres hommes risque de les contaminer, risque de les atteindre. Alors ils ont le parti pris d'être avec Dieu, mais ça veut dire pas avec les hommes. Je vais un peu revenir en arrière sur un des héros des lignées. C'est un des sursis d'ailleurs que je vous avais indiqué. On va l'étudier à ce propos parce que la même expression va nous revenir. Mais regardez bien ce qu'il y a. Et à Elohim, et à l'air noir. Noir se conduisait avec Dieu. Et le mot qui est employé, c'est Elohim. Mais quand Noir a trouvé grâce, c'est Ben et Hachem. C'est un tout autre niveau. Alors je reviens à ce que je disais sur le verset. C'est ce danger d'être sadique par rapport à Dieu, mais séparé des hommes. Simplement, on va prendre acte que Dieu avait donné à l'humanité un sursis de 120 ans. Avec comme guide, avec comme éducateur Noir, dans l'espoir que cela pourrait mener l'humanité à se repentir. On retrouve les problèmes de tout à l'heure. Et le texte l'explique très clairement, nous avons un Midrash qui le dit très clairement, Noir construisait l'arche pendant 120 ans. Et les passants demandaient, qu'est-ce que tu fais? Alors il expliquait, le déluge va venir, je construis une arche, et seuls ceux qui se repentiront seront sauvés, mais personne ne s'est repenti. Ça veut dire que Noir aurait dû aboutir à faire se repentir sa génération, mais il n'a pas réussi. Oui, il y a ici un profil de tzaddik. En français, ça se dit celui qui recherche son salut personnel et qui n'arrive pas à être tzaddik par rapport aux autres. Il faut vous habituer à cette idée. C'est deux catégories radicalement différentes de tzaddikim. Et vous ferez vous-même la correspondance avec Rachar et Racharar. Il y a un Rachar qui peut être Rachar par rapport à Dieu, mais il est bon par rapport aux hommes. Alors on l'appelle pas Racharar, on l'appelle Rachar. Rachar Vetovlo, même, c'est une autre catégorie. Et il y a un Rachar qui non seulement est Rachar par rapport à Dieu, mais qui est Rachar par rapport aux hommes. Et celui-là, on l'appelle Racharar. C'est deux catégories différentes. Habituez-vous à cela. Alors vous allez prendre le...
Comment aurait dû agir Noir?
D'après toi, comment aurait dû agir?
Je pose la question, c'est
non, non, mais d'après quoi tu poses la question? Agir non, sur toi. Très bien, c'est ça que je demande. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il
Dieu lui a demandé de construire une arche. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Chut, laisse-le parler.
Il aurait pu demander aux gens de construire une arche.
Non, ça c'est la chose qu'on a vue d'abord, ça il n'a pas réussi. Mais ça je vais te répondre tout à l'heure, il aurait dû refuser, il y a un verset qui dit en clair, rentre dans l'arche parce que toi je t'ai vu tzaddik. Et sinon Noir avait dit non je rentre pas, le déluge ne serait pas venu. Parce que, comme il était tzaddik, il ne fallait pas que le déluge vienne pour lui. C'est pas moi qui invente ça, hein, ce sont des textes qui existent, mais vous allez voir le verset d'or. Mais bien sûr... Il le pouvait en principe. Mais vous savez, d'un type de tzadikim, Dieu dit, les méchants vont être punis. Il dit, c'est très bien, il faut que les méchants soient punis. Ça, c'est le tzadik et pas tôt. Chut, pas deux à la fois. Hein. Vous allez finir par m'obliger à vous mettre à la porte, si vous continuez comme ça. C'est une mishnah du Shulchan Aruch. Quand quelqu'un parle, on ne l'interrompt pas. Essayez un peu d'apprendre la politesse, si vous ne l'avez pas appris en France. Il est en train de parler, laisse-le parler. Quand il aura fini, si tu as encore une question, tu parles. Et ça vaut pour tout le monde. Hein. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Et ça, je répondais d'ailleurs à ta question. Vous êtes en train de découvrir un profil de tzaddik que la Torah catégorise. C'est pourquoi tout à l'heure je disais assez lentement pour que ça soit bien clair. C'est un tzaddik, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas un tzaddik au niveau d'Abraham. Au niveau d'Abraham, c'est tout à fait autre chose. Tandis que pour répondre à ta question, on verra le verset tout à l'heure. J'y ai déjà répondu d'une autre manière en vous citant le Midrash du Zohar. Quand Dieu dit à Noir, le déluge va venir, Dieu n'a pas trouvé dans ses yeux même pas une larme. Est-ce que vous arrivez à imaginer, si vous connaissez suffisamment la littérature, je pourrais vous donner des images de profils de héros dans la littérature, des tzadikim puritains, de manière très stricte dans les rapports avec Dieu, mais qui sont impitoyables dans les rapports avec les hommes. Ça existe. Okay. Alors, commencez à vous habituer à ces notions-là. Je vais lentement pour que ce soit bien clair. Écoutez, quand une question se pose pendant qu'on est en train d'étudier un sujet, ayez la patience d'attendre que le sujet soit terminé. Parce que sinon, ça fait un bilboule de traverser de vocabulaire différent. Finissez une analyse et après, si la question est restée, vous la posez. J'ai l'impression qu'on n'avait pas du tout été habitué à étudier. Vous discutez, c'est très différent. Et ça existe, mais ce n'est pas le cas ici dans une classe d'études. Mettez bien ça dans la tête. J'ai l'habitude avec les gens qui arrivent de France, je ne sais pas comment vous avez été élevé dans vos écoles, mais essayez d'étudier avec discipline. Sinon, vous n'apprendrez jamais rien de précis. Vous aurez des choses très, très vagues. Faites bien attention à ça. Alors, nous allons prendre une indication dans un personnage dont la Torah nous parle plus haut. Je vais vous donner le verset. Vous allez retrouver une des références que je vous ai dites. Vous êtes au chapitre 5, à la 7e génération, par la lignée de Chet. C'est la naissance de Hanokh. Alors, prenez-vous verset 21. Vous vous rappelez, dans les premiers cours, on avait assisté à la descendance de Caïn, et dans la descendance de Caïn aussi, il y avait un Hanokh. Qui était le Hanokh de la descendance de Caïn? C'était le deuxième sursis. Qui était Hanokh de la descendance de Caïn? Le fils de Caïn. Et ici, nous retrouvons dans la descendance de Chet, à la 7e génération par rapport à Adam, de nouveau un Hanokh. Alors, voilà ce que le verset 21 dit de Hanokh. Suivez bien, regardez le texte. Vayi Hanokh, Chamesh Veshishim Shana, et Hanokh vécut 65 ans, Vayoled et Metushelach. Et il enfanta, il engendra Metushelach, c'est le Matusalem en français. Verset 22. Vous allez retrouver la même expression que pour Noar. Vaïthalech Hanokh et Elohim et Hanokh se conduisait avec Dieu à Haré Holido et Metushelach après avoir engendré Metushelach, Shlosh Molshana Vayolet Banyum Banot pendant 300 ans et il eut des fils et des filles. Verset 23. Vaïhi Kolieme Hanokh et furent tous les jours de Hanokh Chamesh Veshishim Shana ou Shlosh Molshana 365 ans. Verset 24. Vaïthalech Hanokh et Elohim, et Hanokh se conduisait avec Dieu, ve'enenu, et il n'était plus là, qu'il a kachoto Elohim, car Dieu l'avait pris. Bon, c'est un verset et un contexte difficile. C'est un des trois personnages de tout le récit de la Bible qui sont montés vivants au ciel. Ce Hanokh, c'est une autre étude. Mais on va lire ce que Rashi nous dit sur ce verset. Alors prenez Rashi. Vaïthalech Hanokh, Rashi sur le verset 24. Prenez le texte, même ceux qui ne savent pas lire, à force de vous habituer, vous finirez par savoir. Rashi sur le verset 24. Et Rashi cite un midrash du Midrash Rabba. Vaïthalech Hanokh, et Hanokh se conduisait avec Dieu. Tzadik Haya, c'était un tzadik. Vous suivez sur Rashi? On est au verset 24. Tzadik Haya, c'était un tzadik. Vekal bedarto la chouve le archiar. mais c'était littéralement léger dans sa pensée de devenir Achard. Il était tenté de devenir Achard. Ça aurait été facile de devenir Achard, les Firar. C'est pourquoi Miher HaKadosh Baruch Hu, Dieu a devancé Vesilko Vehemito Kodem Zmano, et il l'a pris, l'a fait mourir avant son temps, Vezehu Sheshina Katou Vemitato. Et c'est pourquoi le verset a changé d'expression pour dire sa mort, Lirto Venenu, pour écrire, et Nenu n'était plus Barolam dans le monde, les Malot Snota, pour achever son temps de vie. Voilà ce que nous dit Rashi. Il se base sur des sources, et dans le Midrash Rabba, dit c'était un tzaddik, mais ça lui aurait été facile de risquer de devenir Rachar. Alors Dieu l'a pris avant son temps. C'est pourquoi le texte dit, et il n'était plus là, parce que Dieu l'avait pris. Et alors, l'étude du Midrash que cite Rashi nous fait comprendre que c'est l'intention du verset, il se conduisait avec Dieu. S'il restait dans la cité humaine, ça aurait été facile pour lui de devenir Rachar. Il y aurait le risque qu'il soit Rachar comme les autres. C'est ça quand je faisais allusion tout à l'heure, vous avez des vocations de tzadikim qui préfèrent se retirer de la société humaine, être à part, être uniquement avec Dieu, pour pouvoir se préserver d'être tzaddik. C'est un niveau de tzaddik qui n'est pas appelé tzaddik tov. Il est tzaddik, mais il n'est pas tzaddik tov. Vous voyez que cette même expression avec Hanor, nous l'avons de nouveau avec Noar. Alors que, à propos d'Abraham, le verset dira, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, « It haler lefanai veheyetamim. » Marche devant moi et tu seras intègre, et sois intègre. Ça, c'est le verset d'Abraham. Abraham marche devant Dieu, tandis que Noach est avec Dieu. Voilà la différence. C'est-à-dire, Abraham annonce la révélation de Dieu, il est en avance. Tandis que Noach, c'est l'acquis qui est déjà révélé, auquel il s'attache. On pourrait voir de différentes manières cette différence, mais d'abord il faut vous habituer à ce qu'elle soit simplement perçue, claire. Noach est un tzaddik, mais c'est un tzaddik qui n'est pas défini par rapport au lien avec les autres hommes, qui est défini uniquement par rapport à Dieu. Alors il est appelé tzaddik, mais pas tzaddik tov. Vous voyez, c'est clair ? Tandis qu'Abraham sera un tzaddik qui va être défini aussi par rapport aux autres hommes. Il y a une grande différence. Abraham, le verset que j'ai cité d'Abraham, c'est l'Ifne Hashem, alors que Noar, c'est Et Eloki. Mais on va voir tout de suite, par un verset que nous allons étudier maintenant en détail, que je vais vérifier si c'est suffisamment clair. Alors, avant toute chose, je pense que maintenant, vous avez un autre exemple de cela, ce profil de tzaddik qui est représenté par Noar. On va voir ce que dit Rashi à ce propos. Alors, vous allez prendre Rashi sur le verset 9. Bedorotav. Pourquoi la Torah nous a dit que Noach était tzaddik bedorotav dans ses générations? Il va y avoir une première lecture d'après le sens direct. Noach a vécu trois générations. La génération d'avant le déluge, la génération de pendant le déluge et la génération d'après le déluge. Et dans ces trois mondes, il était tzaddik. C'est-à-dire, c'est un grand mérite qui est indiqué par le verset, il était tzaddik bedorotav, dans le pshat du verset, dans le sens direct. Parce que être juste avant le déluge, être juste pendant le déluge, dans l'arche, être juste après le déluge, c'est trois manières d'être juste radicalement différentes. Et les trois, il a été tzaddik. C'est indiqué par le fait qu'il y a trois fois le mot de Noach dans le verset. Et l'étolot Noach, Noach il tzaddik, et Elohim il alert Noach. Ça c'est le sens direct. Rashi va intervenir par la suite, mais d'abord je voudrais que ce soit bien clair. Pour vous donner un exemple dans ce que nous avons vécu de notre temps, imaginez quelqu'un qui est capable d'être tzaddik dans le monde d'avant la Shoah, d'être tzaddik dans le monde de pendant la Shoah, et d'être tzaddik dans le monde de après la Shoah. C'était trois épreuves du tzaddik différentes. Et j'ai connu personnellement, je pense que vous avez aussi connu, des hommes qui ont vécu ces trois temps-là. Et dans les trois, ils étaient tzaddikim. Mais c'est trois héroïsmes différents. Alors ça, c'est le mérite positif que le texte indique pour Noach. Ils étaient tzaddik dans ces générations. Ça, c'est le pshat. Alors maintenant, on va voir comment Rashi va citer le Midrash. Ce midrash se trouve dans la Gemara de Sanhedrin, tu es dans Rashi. Yesh merabotenu. Certains de nos maîtres, Dorshim, expliquent auto ce mot de dans ces générations, lishbar, en louange. Et ça veut dire kol sheken sheiluaya bedor tzadikim. À plus forte raison, s'il était dans une génération de justes, ayat tzadikyoter, il aurait été encore plus juste. C'est-à-dire, relativement à sa génération, il était juste. Et sa génération, c'est une génération de Rechaïm. Et ça voudrait dire, première lecture, qu'à plus forte raison, s'il était dans une génération de tzadikim, il aurait été encore plus tzadik. Veillez chez Dorshim Otoliknaï. Mais certains de nos maîtres expliquent cela de manière péjorative. Les filles d'Oro et Atzadik, par rapport à ces générations,